Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Tous les jeunes qui veulent travailler dans la tech rêvent de développer. Alors pourquoi? Parce que inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est le métier le plus facile à reconnaître. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Alors pour fêter le lancement de mon job board en collaboration avec My Little Team, j'ai décidé justement de faire une série d'entrevues sur les métiers pour parler des métiers de la production, de l'exploitation et de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu cherches un taf dans le milieu de la tech. Aujourd'hui, je suis avec Rama Sinia. Ensemble, on va parler de son poste et son rôle d'administrateur système. Et aussi, on va voir comment le DevOps et le cloud, la supervision, on aura l'occasion d'en parler, a un gros impact sur son métier.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Et avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. L'invité d'aujourd'hui fait justement partie de cette communauté, peut-être qu'on en parlera. Nous sommes déjà plus de 1000 à échanger et à partager tous les jours. Rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions. Tu pourras justement discuter, trouver peut-être un mentor ou pouvoir mentorer d'autres personnes, parce qu'il y a des juniors qui nous rejoignent. C'est le premier lien en description pour t'inscrire, ou alors tu vas sur le site compagnon-devops.fr. Alors je précise, c'est complètement gratuit, parce qu'il y a des personnes parfois qui peuvent se poser la question. Alors, bonjour Rama, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage que j'ai fait sur LinkedIn et sur le forum justement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît?
Bien sûr. Alors, bonjour à tous, Rama. J'ai 40 ans, bientôt 41. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis ingénieur DevOps, ingénieur système et un peu casquette sécurité dans une startup qui s'appelle Codoc depuis quelques mois. Dans la vie, moi-même personnellement, j'aime bien les jeux de société et les jeux de cartes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Christophe, en me prenant une correction à un jeu de cartes. C'est très rare. Au jour le jour, chez Codoc, en dehors de travailler en pur DevOps et de travailler dans le domaine de la santé, c'est ce que fait l'entreprise pour qui je travaille. J'aime bien utiliser mes compétences de DevOps pour des projets personnels, toujours dans le domaine ludique, mais aussi soif d'apprendre. Je me considère toujours en mode bêta. Voilà, papa d'une petite fille et bientôt d'une deuxième. Voilà.
Eh ben, félicitations. Apparemment, cette partie t'a marqué. Hein. Je me rappelle bien de cette partie. C'est un jeu qui, malheureusement, n'a pas eu le succès qu'il mérite et c'est bien dommage.
Très dommage.
Alors, je vais commencer. Ouais, c'est vrai. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'était Ashes. C'est un très, très bon jeu, mais malheureusement, la communauté n'a pas pu se créer. Je vais te poser quelques petites questions que je pose tout le temps et on va venir un peu après, un peu plus en détail dans ton métier. D'abord, je vais te poser la question sur c'est quoi, à toi, la définition du DevOps?
La définition du DevOps, pour moi, c'est quelqu'un qui a une méthode, ou du moins un mindset, plusieurs choses, c'est un ensemble. Et je savais même pas que j'étais un DevOps il y a quelques années, que j'avais en fait plutôt cette méthodologie. Donc pour moi, un DevOps, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du challenge, qui résout des problèmes, qui teste, qui reteste, qui reteste, et qui détruit et qui reteste, et qui après avance. Et c'est quelqu'un qui, tout le long du cycle de vie d'un service, ou d'une application ou d'une infrastructure, prépare des étapes et met en place simplement des étapes de sécurité, mais aussi fait des tests unit et unit tests. En fait, l'esprit DevOps, c'est quelqu'un qui est sur le système, sur le code, sur l'infrastructure, sur les frameworks, a un large panel de connaissances, mais il n'est pas maître, mais il touche un peu à tout. C'est un peu moi je disais souvent, on m'appelait pas le couteau suisse, on m'appelait la machette suisse. Parce que c'était énorme, mais en même temps, je savais tout faire à un bon niveau. Et je pense qu'un DevOps, c'est ça. Il peut être très bon en sécu, il peut être très bon en infra, il peut être très bon en réseau, et un peu moins en code, un peu moins en debugging, ou l'inverse. Donc pour moi, un DevOps, c'est quelqu'un qui touche un large panel de l'IT, et qui en plus a un pied dans le cloud et un pied dans l'on-premise. C'est quelqu'un qui gère, pour moi, qui doit bien gérer l'hybride. C'est pas quelqu'un qui fait que du full cloud, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les deux environnements. Et donc, tout ce qui va avec. Et la finalité de cela, c'est que pour moi, un DevOps, il prend soin de ses développeurs. C'est ce que j'attache une notion particulière à prendre soin de développeurs qui soient back, qui soient front, ou même mal tech, pour qui, aujourd'hui, avec qui je travaille de concert, et qui est capable aussi, le DevOps, de communiquer de manière transverse dans le périmètre avec les product managers et surtout avec les équipes commerciales. Voilà, ça c'est large hein, pour moi. C'est quelqu'un qui un peu va toucher à tout, mais qui sait se rendre disponible et qui résout des problèmes. Et puis après, c'est quelqu'un qui passe sa vie devant son terminal à faire des conteneurs. Ça, c'est une réalité. Faut pas le nier. Mais c'est pour ça qu'on aime ça.
Ouais, tout à fait. Alors, on fait pas tous des conteneurs, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé ces dernières années. Alors, je me doute un peu d'une partie de la réponse que tu vas me donner, mais comment est-ce que toi, t'as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de faire cette rencontre?
En fait, avant d'arriver dans le milieu du DevOps ou même du Dev, j'ai travaillé dans les Apple Store. Donc, longue carrière dans les Apple Store. J'ai même participé à des ouvertures de certains, donc l'un des plus connus en France, qui est celui des Champs-Élysées. Et en fait, dans ces magasins-là, j'étais ce qu'on appelait un technical expert. Ce sont les gars qui sont Genius Bar, qui réparent vos téléphones. Sauf qu'entre-temps, j'avais créé un projet sur la blockchain. Rien à voir avec la finance. La blockchain, c'est les bitcoins, tout ça, c'est très intéressant. Mais c'était plutôt sur les services décentralisés. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je déployais, en fin de compte, des machines dans le cloud, des VPS, Linux, très simplement. Et je mettais à l'intérieur des wallets et ça faisait du staking pour les gens, des choses comme ça, pour générer des revenus. Mais après, j'ai commencé directement à programmer des jetons pour des clients ou des gens qui le voulaient. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait plus, c'était de déployer en fait leurs infrastructures et les mettre directement soit chez Etzner, sur OVH, avec les VPS OVH ou avec Ionos, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et après, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire ça sur les infrastructures cloud comme GCP. Enfin, pour moi, c'était obscur encore, ces choses-là, mais je me dis fallait y aller. Et je vais continuer à faire ça. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens me parlaient, mais regarde, tu fais du Docker, regarde un peu ce que ça fait, tout ça. Et donc, j'ai un peu découvert l'univers de la containerisation un peu tard, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. C'est vraiment le truc que je me suis dit. Je me suis dit que c'est particulièrement fort ce qu'on peut faire avec ça, extrêmement modulable et tout. Et je me suis dit, je vais mettre de côté la blockchain et je vais me lancer plutôt dans vraiment faire de l'applicatif. C'est là que je me suis rendu compte que le front n'était pas fait pour moi, parce qu'en termes de front, je suis extrêmement mauvais. Et donc, je regardais. Pour moi, j'étais programmeur, quoi, back-end, c'est ce que je me disais. Et on avait joué ensemble un jeu de cartes, toi et moi. Et à l'époque, je n'avais pas trop entendu ce que tu faisais dans la vie, mais on était rentrés en contact, toi et moi, par rapport au jeu de cartes, toujours. Et je suivais un peu ce que tu faisais, et un jour, je vois un truc, des DevOps, un peu, et je me souviens, c'était le lancement de Frogit. Tu avais fait un live dessus, j'avais regardé avec attention, et c'est là où j'ai découvert, en fait, le versionning. GitLab, conseil, GitHub, acheté par Microsoft, peut-être aller chez GitLab, tu vois. Et là, ça m'a ouvert l'esprit sur, attends, mais t'es en train de me dire que je peux aider des gens à accélérer leur déploiement, regarder leur code, agir sur le cycle de vie d'une application. C'est intéressant, ça. C'est ça, le DevOps? Et c'est là où je me suis dit, ben, je veux faire ça, tu vois. C'est là où je me suis dit, je veux faire ça. Donc, ça fait vraiment, réellement, depuis 3 ans que je me considère DevOps. Et c'est vraiment ce que tu avais produit ce jour-là, plus, bien sûr, ma motivation personnelle, qui m'ont fait y venir. Et ce qui m'a fait vraiment motiver, c'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup d'entreprises, mais c'est en train de changer, hein, ce que je veux dire, ça a changé même, n'inclut pas du DevOps, mais n'inclut pas aussi à chaque étape de la création de l'application, ou du service, ou des microservices, ou des API, des choses comme ça, des principes de sécurité assez standards, ou même assez avancés. Et très peu travaillent en version. C'est souvent staging et puis pouf prod. C'est pourquoi on n'a pas l'agilité, on n'a pas le temps, c'est trop lent, des choses comme ça. Et c'est depuis donc mon précédent employeur qui lui en fait compte m'a dit en fait Rama t'es un pur DevOps, on va te mettre dans la sécurité, et c'est là où j'ai déployé en fait des infrastructures sur Azure et j'ai découvert Terraform, et là j'avoue que depuis 3 ans je c'est du bonheur quoi. Donc voilà, c'est vraiment, ça a commencé avec la blockchain et un éclair, ça va paraître assez simple voire bête pour la plupart des gens, mais c'est quand j'ai découvert le versionning un peu tard, le fait d'avoir découvert le Git. Et le fait qu'on peut versionner son code, qu'on peut faire des branches et tout, ça paraît pas, mais même aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'un DevOps doit maîtriser. Et ça, quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour accélérer le développement d'un service. C'est ce qui m'a fait venir dans le DevOps.
Mais c'est cool. Alors, si j'ai pu t'ouvrir la voie vers ce monde-là, tu dis en effet que Git et le versionning, ça devrait être... Ça devrait être connu par, donc tu dis DevOps, mais pour moi c'est par tous les ops. Mm-hmm. C'est vrai parce que, en effet, on a à peu près le même âge, je suis un peu plus âgé, mais moi j'ai beaucoup fait d'exploitation et j'ai beaucoup rencontré d'ops, et j'ai remarqué aussi dans ma carrière que le versionning c'était un truc qui n'était pas inné chez les ops, et pourtant ça nous aide au quotidien, nous les ops qui sommes dans ce mouvement-là justement. Eh ben justement, on va parler de ça, on va parler de ce fait que tu te dis être DevOps, puisque en me contactant, t'es en fait le troisième à me dire ça, parce que j'ai enregistré d'autres interviews qui sont probablement au moment où celle-ci sera diffusée, qui seront sorties. Et je te l'ai dit, je pense que ça me gênait, et je pense que tu le sais en me suivant, puisque je considère que le DevOps c'est pas un métier, c'est un mouvement plus qu'un métier. C'est pour ça que je dis que c'est un adjectif qu'on colle à un métier. Et j'ai proposé de te présenter comme admin sys DevOps, administrateur système DevOps, puisque d'après ce que tu m'as dit, pour moi, ça me paraissait le plus logique. Et en fait, avec les autres personnes, il y en a un, je l'ai présenté comme administrateur cloud DevOps, enfin, parce qu'en fonction des spécialités que chacun fait, c'est pas tout à fait le même métier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ta boîte t'a identifié comme un DevOps et pas comme un ops qui fait du DevOps?
C'était quelque chose qu'il n'avait pas, tout simplement. Kodok est une startup qui existe depuis maintenant 2017. Et c'est vraiment une startup qui a commencé sans avoir justement les méthodes de DevOps, c'est-à-dire les méthodes agiles. Il y avait, mais pas aussi avancé que ça l'était il y a quelques temps et aussi poussé comme on l'emmène aujourd'hui. Si je peux me permettre de faire une petite parenthèse sur l'entreprise pour qui je travaille, Kodok, c'est une startup qui crée des entrepôts de données de santé, donc des ETS. C'est des espaces sécurisés, et ça travaille beaucoup avec les hôpitaux. Et c'est dans le but de la recherche, c'est pour accélérer la recherche. Donc, les hôpitaux ne travaillent qu'uniquement on-premise. Donc, il fallait, au bout d'un moment, il commençait à avoir beaucoup d'hôpitaux, il commençait à avoir pas mal de patients, pas mal de collaborateurs dans les HU, dans les CHU, ou même dans divers groupes hospitaliers. Et donc, ben, eux, ils disaient, il nous faut un DevOps. Il nous faut quelqu'un qui est capable de nous aider à accélérer le déploiement et quelqu'un qui peut nous aider surtout, ben, à respecter le référentiel, en fait, de sécurité que la CNIL propose. Car les entrepôts de données de santé sont extrêmement réglementés. Les données de santé sont aujourd'hui extrêmement sensibles et ça va très loin. Ça peut être de l'imagerie comme des données génétiques, mais bon, tout ça, c'est un ensemble. Donc, Kodok a ce savoir-faire de déployer, de mettre en place, mais il fallait aussi quelque chose qui permettait d'observer, de monitorer, aussi d'accélérer le déploiement on-premise dans des environnements extrêmement fermés et sécurisés que sont les hôpitaux. Comme vous le voyez dans la presse, on voit des hôpitaux, notamment un hôpital à Corbeil-Essonne s'est fait pirater. Donc, la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, vaut mieux cibler ce que j'appelle des assets critiques et les protéger. Donc, ils se sont dit, il nous faut quelqu'un qui est DevOps, qui va nous dire, qui va faire du conteneur, qui va faire du cloud, parce qu'un jour, incessamment sous peu, Kodok va aller sur le cloud, avec tous les services et les produits qu'il propose, ce qu'on appelle des HDS, donc Google Cloud est un HDS, tout ça. Il y en a d'autres, hein, Azure, ou même, il y en a des très bons en France qui sont indépendants, et je pense que pour la souveraineté des données, utiliser HDS français, c'est pas mauvais du tout. Hein. Et il en fallait quelqu'un qui fasse des recherches dans ce jeu-là pour faire en fait cette migration là-dessus. Donc ils se sont dit, bah il faut un DevOps. Alors moi au début quand j'ai échangé avec eux, ben Je suis plutôt axé sécurité, je suis plutôt axé aussi sur le système, effectivement, mais que le DevOps, c'est tout au long des produits et des services que nous allons déployer, il faut que je participe au cycle de vie, en fait, et même de renaissance et de déploiement, tout ça. Et ça, au début, je ne s'attendais pas que à ça. Et aujourd'hui, après bientôt plus de 3 mois dans l'entreprise, c'est quelque chose qui, ils ont compris que le DevOps, tout le monde l'est un petit peu, en fait, dans la boîte. Et c'est là où ils ont compris que, voilà, un DevOps, ce n'est pas simplement une personne, c'est quelqu'un qui amène, en fait, le credo et la philosophie DevOps au sein de l'entreprise, et qui rend autonome certains développeurs, certaines personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de se connecter à un système et de regarder ce qui se passe. Donc, l'esprit DevOps, mon rôle, c'est de mettre à disponibilité des outils pour que l'équipe soit à l'aise, puisse récupérer les informations qu'ils ont besoin, vérifier les déploiements, vérifier que tout fonctionne bien. Et puis surtout, remonter des informations aux diverses autres équipes. Ça peut être des équipes commerciales, ça peut être des équipes produits, ça peut être des équipes marketing qui ont besoin, eux, en fait, d'avoir des retours. Et le DevOps, c'est un gage de confiance avec des partenaires. Quand on commence à dire à des partenaires, qu'ils soient commerciaux ou là, dans les services publics, on utilise les méthodes agiles DevOps pour déployer et maintenir, et donc la haute disponibilité de votre service sera toujours, c'est quand même un argument de dire qu'il y a un esprit DevOps dans l'entreprise. En fait, mes tâches, elles ne peuvent pas reposer qu'uniquement sur mes épaules. Je pense que pour toi, c'est pareil, on peut pas se dire que c'est moi qui va tout gérer au niveau des déploiements, c'est pas moi qui va tout faire, c'est pas possible. Comme je disais au début, on est les couteaux suisses, il faut disséminer. Et donc ça, ils ont recherché, ils savaient pas un peu ce que ça allait leur apporter. D'ailleurs, mon précédent employeur, lui, ne savait pas trop non plus. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la culture DevOps, je pense depuis un an et demi, est vraiment bien comprise que c'est pas uniquement un poste. Malgré qu'il y a une sorte de hype sur ce qu'on fait, qui je trouve des fois n'est pas très positive. Hein. On pourra en discuter d'ailleurs. Mais il faut comprendre que on est vraiment là pas pour uniquement déployer des infrastructures. On est là vraiment pour apporter un esprit, pour faire monter en compétence aussi l'entreprise, mais aussi les employés, aussi les collaborateurs. Et ça, pour moi, c'était essentiel que ce soit compris pour mon nouvel employeur. Et ça se passe très bien aujourd'hui avec eux à ce niveau-là, quoi. Un peu long comme explication. Ça, c'est une bonne question.
Ouais, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à réduire le DevOps à la phase de déploiement. Alors, en effet, c'est la phase où on gagne le plus en retour sur investissement, en automatisant notamment. Mais justement, il y a toute la partie transmission de culture, échange, partage justement entre les devs et les ops. Le fait que les devs montent en compétence sur la partie ops et vice-versa, que l'ops monte en compétence sur la partie dev. Mmh. Moi, en tout cas, depuis que j'évolue en tant qu'indépendant dans le milieu du DevOps, j'ai toujours été dans des équipes pluridisciplinaires où j'étais au milieu des devs. J'étais souvent le seul ops. Donc ça aide justement à mélanger cette culture et avoir la collaboration. Maintenant, j'essaie d'aider les grandes entreprises à passer au DevOps, à apporter cette philosophie en interne, mais c'est compliqué parce que bon. Justement, on en parle dans un autre épisode de podcast que j'ai enregistré cette semaine. Mais ce que tu me dis là-dessus, ça m'amène à une autre question que je te poserai tout à l'heure, justement, sur un autre des aspects du DevOps. Donc, t'en parles assez peu, mais j'aimerais bien que, justement, tu nous décrives un tout petit peu ton quotidien, tes tâches récurrentes dans ton métier. Parce que l'objectif, là, c'est de faire connaître ton métier. Et quand tu nous as expliqué ce que tu faisais au début, clairement, t'installes des systèmes et des serveurs. C'est pour ça que je te présente comme un administrateur système, même si c'est plus compliqué que ça, on le sait tous les deux.
Mon quotidien commence très tôt. Je suis un lève-tôt. Si je vous dis un peu ma journée type, les gens vont se dire « Ouh là là !» Je me réveille toujours entre 5h40 et 6h du matin. Et je prends mon temps pour me dégourdir. Ça paraît pas, mais avoir une bonne hygiène de vie dans notre métier est extrêmement important. Parce qu'on a un métier qui peut être stressant des fois. Faut pas l'oublier quand même ça. Donc je me lève très tôt et je fais les choses du matin que tout le monde fait. Et puis je veux dire vers 7h, je commence à attaquer. Et ma journée quotidienne, ça commence toujours par observer sur ce qui s'est passé la veille sur nos environnements de dev, de pré-prod, Donc, je regarde un petit peu sur une plateforme de monitoring que j'ai déployée chez Kodok. Et je vérifie que tout fonctionne bien. Je prépare aussi un récap de ce que j'ai fait la veille. Principe de méthode agile d'une startup. Donc, on a un stand-up à 9h45, donc 2 heures plus tard. Donc, pendant tout ce laps de temps, je fais de la veille. Beaucoup de veille. Et je teste des nouvelles technos sur mon ordinateur personnel. Ça passe par le futur pseudo peut-être concurrent de Kubernetes qui est Nomad de HashiCorp que je teste en ce moment. Ça peut passer par voir mon Vault, mon cluster personnel que j'ai. Je fais des tests. J'aime bien tester des environnements. C'est ce que je fais pendant une heure. Ça me permet de mettre dans le bain et un peu de déconnecter vis-à-vis de ce que je fais comme mission. Ça, c'est un peu voilà comment je démarre. Et en fait, mon quotidien chez Kodok commence vraiment à partir de 9h45 où là, suite à ce stand-up, on dit ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui, où j'attaque. Généralement, je me prépare toujours la veille et ça commence toujours par améliorer en fin de compte et peaufiner notre manière de déployer. Mais aussi, comme je le disais, sur nos machines et sur les systèmes qu'on a et les environnements qu'on a, qui sont les environnements Kodok sont extrêmement riches et complexes parce que c'est des stacks assez impressionnantes, parce que c'est la data, hein. Il y a une équipe de une dizaine de data engineers et des clinical data engineers dans l'équipe, donc ils travaillent beaucoup sur des ETL. Je sais pas si tu sais ce que c'est un ETL, je pense que oui, mais pour les gens qui me regardent, ils savent pas, donc c'est des technologies d'extract transform load, donc ça prend de la donnée avec des connecteurs, ça les transforme et ça les charge de manière lisible. Donc c'est ça le produit que a Kodok, c'est-à-dire comment on accélère la recherche pour les chirurgiens, les scientifiques dans les hôpitaux, donc eux, ils ont des entrepôts de données de santé, ils ont plein de données, sauf qu'elle est lisible, donc on a créé un moteur de recherche interne pour eux, et ce moteur de recherche leur permet en fait de faire une recherche beaucoup plus rapide, ils peuvent créer après des corps, des choses comme ça. Ça s'appelle Dr. Warehouse, un petit jeu de mots sympa avec la série. Et en fait, il faut améliorer en fait ce service qui lui est connecté à une API. Enfin, donc en fait, mon travail, mon quotidien depuis que je suis arrivé chez Kodok, ça consiste à améliorer en fin de compte l'API, en fin de compte de tous les services et de tous les microservices. Donc beaucoup de reverse proxy. On utilise Traffic par exemple comme techno, beaucoup d'Nginx. Traffic que j'ai découvert, vous voyez quand dans notre métier on découvre des technos tous les jours. Hein. Traffic que j'ai découvert avec Kodok. Et tu en avais parlé une fois dans une vidéo, j'avais noté dans un coin, et heureusement que je l'ai noté dans un coin, que j'avais lu la doc. Je trafique, que j'y touche 2-3 fois par jour et je découvre de plus en plus de choses à mettre. Je trouve que c'est un très bon outil pour gérer, en fin de compte, les conteneurs, c'est super. Et donc je parfais en fait ces systèmes en fait de surveillance, d'observation, mais aussi comment rendre beaucoup plus simple la récupération d'informations, mais aussi beaucoup plus simple pour nos équipes, comme ces équipes data. Ils doivent créer des connecteurs, donc des fois c'était très lourd pour eux avant pour créer ces connecteurs. Donc c'est-à-dire que ils devaient se connecter à l'hôpital avec un VPN, demander un droit d'accès, tout ça, c'était assez complexe et assez long pour eux, et pas tous n'étaient capables d'aller faire des connexions ici, ça, de faire des requêtes. C'était pas évident. Donc l'objectif, c'était de leur créer une sorte de plateforme, mais aussi qui leur permettait d'avoir des informations qui leur évitaient de se connecter. Donc mon quotidien, c'est remonter des informations aux équipes, et tout en respectant les règles de sécurité et de conformité qui sont imposées par les hôpitaux. Chaque structure a sa propre règle, leur propre règle de sécurité et leur propre infra. Certains ont des pare-feux extrêmement puissants, hein, bien vu chez ceux qui ont des storm shields, par exemple. C'est pas facile, par exemple, de se connecter sans profil VPN, donc faut pouvoir récupérer des infos. Donc, mon quotidien, c'est aider mes équipes à ce qu'ils reçoivent leur rapport le matin correctement, vérifier que ça fonctionne bien. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et aussi débugger et aider les équipes lorsqu'elles ont des problèmes sur les sandbox qui sont sur le cloud. Donc mon quotidien, c'est pas mal de debugging, beaucoup de monitoring, et en ce moment beaucoup de construction, parce que je suis en train de construire avec l'équipe back une API gateway qu'on va mettre à GCP en fin de compte, et qui va récupérer toutes nos API et qui va nous permettre en fait de déployer encore plus facilement. Ça, c'est un peu mon quotidien. Donc, mon quotidien, il est très, en ce moment, dans la configuration de conteneurs qui va permettre de créer des gateways. Et comme c'est des environnements on-premise, c'est là où il y a le challenge, on n'a pas le cloud On n'a pas une stack VMware où on peut terraformer quelque chose, où il n'y a pas de Kubernetes. Donc, il faut trouver des méthodes assez ingénieuses pour déployer. Donc, ils avaient déjà des outils très intéressants chez Qdoc. Donc, je n'avais pas besoin d'inventer l'eau chaude, ils avaient déjà des choses prêtes. Mais après, il fallait observer. Et donc, j'ai mis des technos comme Portainer, je ne sais pas si tu connais. Tu vois, Portainer qui permet directement. Oui, et là, ça a permis d'observer les conteneurs, de pouvoir les redémarrer directement, récupérer des informations. Et puis, beaucoup de reverse proxy dans les hôpitaux, beaucoup de proxy pour remonter les informations dans notre serveur central de monitoring qui est sur Google Cloud. Donc, comme techno, on utilise Zabbix, qui est un système de monitoring open source qui, quand on commence bien à le tweaker, bien aller au bout des choses, on peut faire beaucoup de choses. Donc, monitorer des conteneurs Docker en live, savoir quand ils s'arrêtent, quand ils remontent. Voilà. Donc, mon quotidien, il est exactement ce que fait un DevOps. C'est-à-dire que aucune de mes journées ne se ressemble. Voilà. Hier, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Portainer pour pouvoir le mettre avec Traffic. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé uniquement sur l'API Gateway que je voudrais mettre en place avec Nginx, avec plusieurs routes. Et donc, j'ai fait des tests avec Kong, avec Insomnia, des choses comme ça. Et je sais que lundi, quand je vais commencer, ça va être totalement différent. Ça va être un audit de sécurité sur ce qu'on a mis en production hier. Parce que je dois vérifier des choses. C'est très souvent dans mes journées, elles se ressemblent pas. Mais mon quotidien est très axé sur la récupération d'informations, résoudre des problèmes qui peuvent être bloquants et rendre aussi autonome l'équipe. Ça, c'est... Il y a un peu de tout dans mes journées en ce moment.
Ouais. Ce qui est bien de rappeler, c'est justement comme on avait fait un épisode de podcast sur la production et l'exploitation, c'est quand on travaille en mode DevOps, comme on a automatisé beaucoup de choses, il y a pas mal de choses qu'on fait plus tout le temps et tous les jours, et donc ça nous laisse du temps pour faire du projet. Et on fait à la fois des choses récurrentes et donc du maintien en condition opérationnelle et aussi du projet. Est-ce que tu le vois ça, cette répartition dans ton métier?
Je dirais oui. C'est vrai que justement, du fait que j'ai pu automatiser la récupération d'informations, le monitoring, mais aussi rendre autonome l'équipe pour qu'ils aillent voir, c'est vrai que je peux beaucoup plus me focaliser sur le gros de la création de cette API pour l'entreprise. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas les outils DevOps, je serais pas là, par exemple, pour prendre ce temps pour te parler. Ça peut jouer. Et je suis plutôt d'accord avec toi. L'automatisation des choses, créer une plateforme et même tout ce qui va avec, hein, je veux dire, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, on prend soin de nos développeurs, je veux dire, tout ce qui est CI/CD, tout ce qui est image, tout ce qui est récupération d'infos, si tout cela c'est clair pour tout le monde, ça rend autonome les gens, ça marche tout seul, ça fonctionne, uniquement quand ça bloque, et ça peut bloquer, et ça va bloquer, ben là on m'appelle, effectivement, c'est tout à fait normal. Mais c'est clair qu'après, ça me dégage beaucoup de temps pour me focaliser sur les projets futurs et anticiper, notamment l'anticipation sur le cloud pour les HDS quand Qdoc va proposer ses services sur le cloud pour d'autres structures médicales et surtout améliorer en fréquente encore et encore ce que l'on propose. Parce qu'il y a le service phare en fait de Qdoc, c'est qu'en fait les chercheurs ils peuvent créer des espaces sécurisés. Donc, quand ils créent une cohorte avec des données, c'est assez fort. Donc, c'est Alitech qui a créé ça, qui s'appelle Marie. Coucou. Donc, en fait, il y a Dr. Warehouse, le chercheur, le chirurgien, ou le professeur va faire une recherche sur telle ou telle maladie. Il va faire une cohorte, donc, avec la recherche, avec Dr. Research. Donc, il fait sa recherche. Et après, en fait, compte, il va dire, ben voilà, je voudrais faire une recherche sur, par exemple, sur l'amylose, là-dessus. Il me faut telle personne, telle personne, etc. Je passe les détails. Et là, ça va lui créer un workspace. Et ce workspace, il va être automatiquement déployé dans un conteneur lorsqu'il en fera la demande. Bon, il y a plein de choses administratives avant que je passe, sinon ça serait trop long à expliquer. Mais rien que ça, le fait que ça se passe bien, faut pouvoir, on a cette petite phase de stress qui se dit, est-ce que ça a bien marché? Parce que, comme c'est de l'on-premise, faut pas oublier, la machine, la VM est extrêmement sollicitée, donc, ces données, même RAM, CPU, tout. Et au bout, et donc ces chercheurs, il n'y en a pas qu'un dans un hôpital. J'étais d'ailleurs impressionné que je ne savais pas que pour la recherche en France, autant de gens étaient investis. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je suis Qdoc, c'est que j'ai l'impression que D'ailleurs, chaque déploiement, d'ailleurs, chaque configuration que je fais, j'ai l'impression de sauver une vie. Et c'est pas des blagues. C'est vraiment une entreprise qui a du sens, parce que c'est vraiment le but d'aider les chercheurs de manière. Donc, ces espaces de recherche, en fait, qui sont déployés, ben, ils demandent de la ressource, et il faut s'assurer qu'ils ne cassent pas. Et il faut s'assurer surtout, c'est là où on intervient, qu'une fois que la recherche est terminée, que ces données soient détruites, parce qu'il y a des données de gens, de patients. Et donc ça, bah, le fait que c'est automatisé, bah, c'est clair, ça nous laisse beaucoup de temps pour nous focaliser sur d'autres choses, sur le futur qu'on peut faire, tout en gardant, et ça c'est moi qui fais un peu le garde-fou là-dessus, une observation sur l'environnement que nous avons dans les hôpitaux et dire « Ah, faut peut-être améliorer ça. Ça, faut peut-être l'améliorer. Il y a un correctif à faire. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper, on va corriger. » Donc il y a des outils que j'ai mis en place, notamment SNIC par exemple, des choses comme ça, beaucoup d'observations. Et le but, c'est que ben allez, on se focalise maintenant sur des nouveaux services ou améliorer ce qu'on a. Ça, je suis d'accord. L'automatisation des choses aide beaucoup à créer de nouvelles features, de nouveaux projets.
Alors, tu as parlé justement, tu as parlé de la veille tout à l'heure. Tu commençais ta journée par de la veille. Et du coup, ça me permet de te poser la question. La veille, est-ce que c'est important pour toi? J'ai compris que oui. Est-ce que ça t'aide dans ton métier? Est-ce que tu le sens? Et est-ce que pour toi, tu le comptes dans ton temps de travail ou pas? Et corollaire à ça, est-ce que tu conseilles aux novices qui commencent de faire de la veille quotidienne ou au moins hebdomadaire? Oui, c'est ça, hebdomadaire.
Alors, ce n'engage que moi. J'ai une maman qui m'a toujours dit « Mon fils, t'es responsable de ton développement. » C'est-à-dire, moi je considère que la veille, c'est pendant les heures de travail ou même en dehors. On a tous aujourd'hui la chance d'avoir des produits mobiles, c'est-à-dire des téléphones, on les ouvre, on peut en avoir. Donc moi, la veille, c'est important, ça touche pas mal de sujets. En ce moment, c'est beaucoup les sujets qui touchent la santé, notamment sur tout ce qui est référencement, sur tout ce qui est HDH. Le Health Data Hub, des choses comme ça. Mais aussi, il y a un Reddit que j'aime bien, le Reddit DevOps, que j'aime bien regarder, qui me donne souvent des informations très intéressantes, très pertinentes. Je regarde beaucoup de webinaires, ou de rapports de webinaires qu'il y a eu sur des technos. Et enfin, bah, je parcours un peu les médiums, je parcours un peu les blogs qu'il y a, et quand je tombe sur des articles intéressants, je me les bookmark pour le lendemain. Donc la veille, j'en fais beaucoup. C'est le matin, c'est ce que j'aime bien faire au calme, et je conseille à tous, en fait, de le faire. Pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est pour se tenir informé de ce qui se passe, en fait, dans notre écosystème et autour de nous. On n'est pas à l'abri d'une version, je sais pas, d'Ubuntu qui change ou d'une faille de sécurité ici, par exemple. Ça peut être aussi une nouvelle technologie qui émerge, il faudrait peut-être prendre le pas et se tenir informé. Je parlais tout à l'heure de Nomad, qu'aujourd'hui, les gens disent que ça va concurrencer Kubernetes. On sait qu'aujourd'hui, Kubernetes, faut s'accrocher pour le concurrencer parce qu'il est fortement ancré. Mais, faut garder à l'œil. C'est comme à l'époque pour Podman. Podman, pas trop de monde y croyait, mais finalement, il y a des gens qui demandent Podman. Notamment Chef, par exemple. Tous ces outils d'automatisation, eh ben, le but, c'est pas de les connaître par cœur. Parce que comme je disais au début, le DevOps, la méthode du DevOps, c'est pas de connaître tout. C'est de connaître un peu tout. Et comme on touche que les choses qui sont pure DevOps, ben des fois je navigue un peu dans les choses qui ne le sont pas. Ben des fois je vais regarder, tiens, en ce moment nos applications sont avec Vue ou avec Celery. Ce sont des choses que je regarde beaucoup. Et je regarde un peu les projets qui tournent autour de ça. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Oracle, les bases de données Oracle, que je n'ai pas touché depuis très longtemps, ben c'est pareil. Donc en fait, je veille souvent autour, je dirais, des environnements que d'habitude ne le sont pas. C'est-à-dire que je me mets en situation d'inconfort total. Parce qu'on n'est pas à l'abri demain qu'un de mes amis, ou même collègues, ou même une personne sur un forum ou sur X dit « Tiens, voilà, j'ai des problèmes sur ce sujet-là, j'arrive pas à avancer. Ben, » peut-être que moi, j'ai la réponse. Parce qu'on a la méthode pour aller chercher, en fait, le problème. Comme je disais au début, le DevOps, c'est un peu des personnes qui ont la capacité de résoudre des problèmes. Et c'est ça qui est important. Donc oui, je pense que même en dehors de son temps de travail, il faut tout de même prendre du temps pour faire de la veille. Et surtout, s'intéresser pas qu'uniquement aux technologies et tout ce qui est technique. Faut aller un peu dans le légal. Faut aller aussi un peu s'intéresser avec qu'est-ce que font les éditeurs des logiciels que nous utilisons. J'ai bien aimé, par exemple, la vidéo que tu avais fait sur Copilot de GitHub. Tu vois, c'était intéressant de s'interroger sur les licences libres, comment ça s'applique. Ouais, ce genre d'interrogation, ça permet de se dire peut-être pas mettre tout notre code n'importe où, et etc. Et ça permet de, en cherchant encore une fois, de se dire mais quelle solution je peux trouver à côté. Et encore une fois, on voit que d'autres personnes pensent pareil ou d'autres pas. Faut un peu naviguer en dehors de la boîte, thinking out of the box. Faut des fois pas rester. Et donc c'est uniquement pendant son temps libre qu'on peut faire ça. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Il faut prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, le work-life balance, c'est important. Mais je dirais, pendant ces heures de travail, c'est clair, il faut pas hésiter à être proactif et à communiquer avec vos responsables, de dire, voilà, là, je vais prendre une heure ou deux pour faire de la veille, le mettre dans votre emploi du temps. Ça encore, c'est une méthode, c'est-à-dire, c'est important d'avoir un positionnement et d'être prévenant. Dire, voilà, pendant une heure, là ou deux, je fais des recherches là-dessus, mais je suis pas sur ce sujet, mais on reste disponible. Mais, je veux dire, rien ne vous empêche de prendre une demi-heure ou 10 minutes, 15 minutes par là pour prendre des informations. Et enfin, faut pas hésiter aussi un peu à se renseigner sur ce que font les DevOps dans d'autres pays. Moi, j'aime bien faire ça. Je regarde les DevOps qui en Asie, par exemple, qui ont une méthode de travail extrêmement très axée à AWS. Hein. Vous avez les Américains qui ne jurent uniquement par Google, Terraform, des choses comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, on découvre qu'ils ont une autre méthode de travail. Et en fait, on se rend compte que nous, on fait pas. Je me suis rendu compte que je fais pas les fichiers de trafic comme peut faire, par exemple, quelqu'un dans une autre zone géographique. Je suis pas sûr. Des fois, on se rend compte que les gens ont réussi à compacter leur code pour faire la même chose qu'on fait. Et là, tu te dis ah ouais. Et donc, forcément, sans veille, on peut pas avancer là-dessus. Donc, c'est important de. Faut se mettre en mode bêta. Je dirais qu'on n'est jamais un DevOps ou un admin système ou quelqu'un qui travaille dans un domaine sans se mettre en mode bêta tout le temps. On n'est pas des experts. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. L'expert cloud DevOps, je suis pas un expert. Pour être expert d'une chose, faut l'avoir créée et aller au bout des choses. Et dans notre métier, comme on doit tout un peu connaître, faut aller au bout dans le détail des choses. Mais c'est très large le panel. Donc, la veille, c'est super important. Super important.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai tendance à considérer que il y a deux types de veille, comme tu le dis. Il y a la veille que tu dois faire pour ton métier, pour ton employeur, celle pour laquelle t'es payé. Elle, il faut l'inclure dans ton temps de travail, c'est obligatoire. Et puis, quitte en plus à partager la veille avec tes collègues et chacun va explorer un bout ou un domaine et après vous échangez les meilleures trouvailles. Ça, en plus, ça permet de partager la veille. Mais tout ce qui est autour, ce qui aide pas forcément ton travail au quotidien, mais qui t'intéresse autour de la tech, ça, en effet, peut-être qu'il faut le faire à côté. Et moi, à un moment, c'est plus facile parce que je suis freelance, donc j'ai compte à rendre à personne. Je me donnais une heure par jour, en fait. Je commençais tous mes après-midi par une heure de formation ou de veille. Donc là, j'ai dû arrêter à cause de Frogit, qui est un gros projet qui me prend beaucoup de temps, mais l'idée, c'est d'avoir une hygiène quotidienne ou hebdomadaire de veille. Pas mensuelle. Mensuelle, c'est trop large. C'est aussi pour ça qu'on sort un épisode de podcast tous les mois, pour vous aider aussi à faire votre veille.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu nous as parlé de gros projet là, que tu mènes en ce moment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, quelques mots, rentrer un petit peu plus dans le détail?
Alors, comme j'expliquais, je fais très vite. Hein. Codoc, en fait, crée un panel de services, en fin de compte, pour accélérer la recherche au sein des hôpitaux. Donc, vous avez des produits et des services qui s'appellent Dr. Coeur, Dr. Warehouse, Dr. Arnaud, Dr. Research et Anonymous. Il y a plein de services. La base, c'est que un chercheur, un professeur ou un médecin peut, en fait, lancer un projet de recherche. L'objectif, c'est d'arrêter un peu l'errance de diagnostic, donc accélérer les diagnostics, accélérer la recherche. C'est, pour moi, c'est quand j'entends ça, j'ai entendu ça, je trouve ça incroyable. Et après, les données restent totalement anonymes, des choses comme ça. C'est-à-dire que il y a vraiment des services qui ont été créés, notamment Anonymous, hein, ça s'appelle Docteur Anonymous, c'est pour complètement anonymiser les données en fait compte des patients. Et à côté de ça, on a créé un autre service qui s'appelle Arnaud, qui est connecté à France Connect, qui permet en fait de demander en fin de compte les droits, le consentement des patients, et s'ils ne veulent pas, c'est un droit d'opposition, ils sont retirés de la recherche. C'est extrêmement carré et réglementé, et vraiment ça a de très très bons retours au sein des GHU de travail. Là aujourd'hui, comme je disais, on a de plus en plus d'hôpitaux en fin de compte avec qui on est partenaire. Nous avons les hôpitaux comme Foch, vous avez aussi d'autres hôpitaux que nous travaillons, notamment celui-là de Sainte-Anne, qui est récent. Donc, il y a l'Institut psychiatrique. Donc, il y a pas mal, et en fait, les hôpitaux sont, je dirais, ils commencent à avoir pas mal qu'on déploie. Vu que là, j'en ai mis en monitoring 3 en l'espace de 2 mois, ça montre que les déploiements, au fur et à mesure, avancent. Donc, au bout d'un moment, il va y en avoir beaucoup trop, et surtout, on va avoir besoin de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, l'équipe data, elle va avoir besoin d'enrichir les données, va avoir besoin de créer des nouveaux connecteurs et de voir lesquels fonctionnent ou ne fonctionnent pas. C'est ce qu'on appelle des DAG. Donc, c'est une technologie qui s'appelle Airflow. Donc, c'est des conteneurs qui sont complètement connectés avec une API. Donc, ça, ils créent des DAG. Et donc, vous avez des pipelines NLP qui sont balancés et qui enrichissent les données, qui extraient, qui récupèrent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, c'est très sollicité. Et donc, la complication, c'est que si on, là, pour l'instant, avec 3 hôpitaux, ça génère des heures et des heures le matin pour que chacun de l'équipe data, chaque data ingénieur, qui est normalement payé pour créer des connecteurs et non pas aller récupérer l'information de la veille si son connecteur a fonctionné. Donc, je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle Codoc API, et l'objectif, ça va être d'aider l'équipe data à pouvoir récupérer ces informations avec une API qui a été faite par l'équipe App, Codoc, et à côté l'équipe de data, elle utilise Airflow. Donc je crée une gateway qui va récupérer les informations de l'API de nos services et celle d'Airflow. Sauf que souvenez-vous, les hôpitaux, ce sont des environnements extrêmement sécurisés normalement. Et là, avec ceux qu'on travaille, je peux vous le garantir, ça l'est. Et donc nous, on est obligés de se soumettre à leur si on veut, leurs règles de sécurité. On ne peut pas se permettre de faire des requêtes dans leur infrastructure. On ne peut pas. Ça ne se fait pas, tout simplement. Donc, il a fallu travailler sur quelque chose de différent. Donc, aujourd'hui, je travaille sur un service avec... pas trop teaser dessus, mais ce que je peux dire, c'est qu'on aura une gateway, en fin de compte, qui va répondre à des workers salary, en fin de compte, qui sont dans nos API, donc c'est avec un paquet Django, je ne sais pas si tu me suis toujours à ce moment-là. Et en fin de compte, les workers, en fin de compte, avec le broker Redis, vont, si tu veux, effectuer en fin de compte les requêtes vers ce portail pour en fin de compte les envoyer directement au data ing pour dire voilà, est-ce que tel DAG, tel ID, par exemple, pour la myocardie a fonctionné? Est-ce que pour la biologie ça a fonctionné? Est-ce que ce tel thésaurus a fonctionné? Donc ça balance plein de choses et ça permet. Il y a 2 valeurs. La première, c'est que déjà, le data ing, quand il se connecte le matin, il voit tous ses DAG, c'est OK. Il en voit un qui est en erreur, il peut travailler uniquement dessus. Et avec l'API, il pourra détruire ce DAG, repoucher ce DAG et le refaire, au lieu de se connecter à l'hôpital, de se connecter à Airflow, tout ça. Ça, c'est une première chose. Et enfin, c'est l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital avec qui on travaille, eux, ils ont pas, quand ils lancent leur recherche, ils savent pas quand c'est cassé. Pour eux, ça continue à fonctionner. Si tu veux, ils ont pas un retour 404, ils ont pas une erreur 500 ou une bad gateway, quelque chose comme ça. C'est nous qui avons cette réponse-là. Et en fin de compte, on peut pas se rendre compte quelques heures plus tard ou un lendemain ou même des jours plus tard, qu'il y a des connecteurs qui n'ont pas fonctionné ou pire, des connecteurs qui ont pris des heures et 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 des heures à traiter des données. Donc, là aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment récupérer, vu qu'on va avoir plein de sites. c'est récupérer dans un endroit centralisé des informations pour nos équipes data. Et donc, ça passe par la récupération. C'est le but de, je pense que nous, les développeurs, on travaille beaucoup sur les API, grâce au gateway. Et donc, j'avais déployé une API gateway avec mon précédent employeur sur Amazon, dans le domaine de la data, mais pour des tickets de caisse. Et j'utilise un peu le même mindset. C'est-à-dire, je vais récupérer les API, et puis, je vais les mettre, c'est un JSON, tout SQL dans une base de données, et puis, c'est aux équipes, en fait, directement de regarder ce qui a fonctionné ou pas. Donc, il y a pas mal de techno dans cette architecture, hein, je dirais le service, le client, il est HACCP, la VM de déploiement est dans l'hôpital, il y a un tunnel qui est entre la VM de déploiement et la VM qui est HACCP. Et en fait, quand l'écosystème en fait, quand, qui est au sein de l'hôpital, lui, il communique tout entre eux, mais dans un environnement fermé. Et donc, on ne veut pas récupérer les informations des recherches. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de savoir est-ce que nos connecteurs ont fonctionné. Ceux qui ont fonctionné, est-ce qu'ils ont créé quelque chose? Parce que des fois, dans les ETL, j'ai lancé un truc là, mais il n'y a rien au bout. S'il n'y a rien au bout, ça veut dire que peut-être le DAG n'est pas bon, donc il faut le revoir. Donc ça parfait, je disais, ça améliore en fait compte les microservices et les produits que nous faisons. Et ça accélère toujours la recherche. Et il faudra attendre les prochaines communications. Moi, je ne m'occupe pas de ça chez Codoc, mais il y a eu 2-3 effets waouh, et notamment un hier que ça fonctionne en plus. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et si on arrive à mettre ça en place, on peut aller encore plus loin sur des pathologies ou des maladies rares qui sont, beaucoup plus dures à diagnostiquer et donc éviter les erreurs de diagnostic. Et je trouve que ça a énormément du sens. Non seulement on fait un métier passionnant dans le domaine de l'admin system, du DevOps, mais si en plus on peut, à côté, sauver des vies, c'est top. Donc, sur quoi je travaille, Codoc API, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je suis pas tout seul à le faire. Il y a la lead tech qui travaille avec moi, ainsi que le lead backend développeur. Donc lui, moi, je me charge plutôt du déploiement de la chose, de la sécurité. Donc après, tout ce qui est gestion des jetons, tout ça, entre les deux, je vais mettre un Vault. Parce que moi, les authentifications, c'est quelque chose qui me met en panique. Donc, la sécurité, c'est très important. Et en fait, compte, le backend s'occupera des bases de données. Il a fait le format de données, des choses comme ça. Et la lead tech, elle s'occupe un peu de nous piloter. Quelqu'un d'extrêmement motivant et d'engagé dans ce type de service. Donc, c'est le gros bébé qu'on doit sortir, j'espère fin novembre ou fin décembre.
Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a une partie de votre infra qui est dans le cloud, celle que tu as décrite dans GCP, et il y a une partie qui peut être un peu considérée, en tout cas moi que je vois comme du edge computing, c'est-à-dire une partie déportée qui est dans les hôpitaux, c'est ça que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris, mais qui est dans les hôpitaux et les deux communiquent, est-ce que j'ai bien compris?
Alors la seule chose, oui, c'est bien ça, c'est-à-dire que les hôpitaux sont dans un environnement fermé, mais on a une machine de rebond qui elle nous remonte uniquement les informations de monitoring qu'on a besoin pour déployer et avancer, qui les remonte à notre machine centrale qui est sur GCP. Et en fin de compte, sur cette machine-là, en fin de compte, on ne fait que du monitoring et on en récupère les informations. Mais les hôpitaux, eux, ont leur environnement bien à eux. Hein. Et il y a que cette machine de rebond-là qui est connectée via uniquement un seul port. C'est-à-dire, c'est filtré, c'est extrêmement filtré. Des fois même, malheureusement, pareil, ce qui est bien avec Zabbix, j'en parlais tout à l'heure, on peut monitorer lorsqu'un protocole ne fonctionne plus. Ben, des fois, quand je reçois une alerte que le port en question ne fonctionne pas, je sais que c'est à l'hôpital, il y a peut-être eu un problème de firewalling, ou alors la machine de rebond ne marche pas. Il y a pas mal de choses, donc aucune des informations des hôpitaux liées à leur recherche ne remonte. C'est vraiment que les informations des VM et des services, des applications qui remontent.
Ben merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec des infras comme ça. Nous, on y pense pour un de nos SaaS dans le futur, avoir une infrastructure centralisée dans le cloud et puis un petit serveur ARM chez les clients directement dans leurs locaux qui communique pas forcément tout le temps avec les serveurs centralisés, mais au moins qu'on puisse mettre à jour régulièrement. Ça me fait penser à ça. Je trouve ça super malin. Mmh. Et l'autre question que je voulais te poser, est-ce que tu as regardé du côté du produit qui s'appelle Boundary chez HashiCorp, parce que tout ce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur les notions d'authentification, d'API, etc., moi, ça me fait penser à Boundary.
Alors, Boundary, j'ai pas vraiment suivi le sujet. Et l'authentification, en fin de compte, c'est quelque chose qui est important, c'est clair. C'est pour ça que tout ce qui est gestion des tokens plus identification, parce qu'on sait un token, un login, voilà. Et j'avoue que le Vault, une fois qu'on est allé au bout des choses, c'est déjà costaud, très costaud à mettre en place. Mais en même temps, c'est un gage de sécurité. Et encore une fois, lorsqu'on tient à une entreprise ou à un partenaire, vous inquiétez pas, au niveau de l'authentification, on a ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle Vault. Et si on arrive à l'expliquer correctement, et c'est là où encore l'agilité DevOps aide vraiment lorsqu'on parle avec des DSI ou avec une directrice financière ou un directeur financier, pardon, X personnes qui n'y connaissent pas forcément techniquement, c'est-à-dire vulgariser la technologie, ça, c'est un atout qu'on a parce qu'on sait exactement comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment trouver des analogies pour que ça fonctionne. À Bondari, j'ai pas regardé. Hein, je suis un peu passé à côté. J'ai vu qu'il y a eu la ShakerConf récemment. J'ai pas suivi. Si tu pourrais me dire un peu c'est quoi le topo, parce que ça m'éviterait de...
Ouais, alors... Ouais, je pense que ça pourrait t'aider en plus. Donc c'est un produit HashiCorp qui est sorti il y a 2 ans, puisqu'on en avait déjà parlé dans Radio DevOps il y a 2 ans. Et alors je l'ai pas essayé, mais c'est un produit qui promet de faciliter les accès aux services sans SSH, sans tout ça, sans VPN, parce que c'est Boundary qui s'occupe justement d'autoriser l'accès ou pas à un service.
Ah,
et c'est un logiciel comme tout ce que fait HashiCorp, il y a une partie libre et une partie sous licence. Voilà. Donc peut-être que tu devrais aller voir, ça pourrait peut-être accélérer des choses pour vous.
Je vais regarder ça, ouais.
Donc j'ai une autre question pour toi, c'est les études que tu as fait. Quelle étude tu as fait justement, et selon toi, quelle étude pourraient faire les personnes qui voudraient faire le métier que tu fais aujourd'hui?
Alors accrochez-vous. Je suis né en France, mais j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mon père est indien et ma mère est perse. Et les études que j'ai faites, on va dire que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo et informatique qui s'appelait Game City à la Réunion. Et je réparais et je construisais des consoles et des machines d'arcade. Donc, j'adorais l'électronique à la base. Mon patron de l'époque, qui est aujourd'hui un mentor pour moi, Eric, bonjour, m'a dit il te faut un diplôme. C'est difficile aujourd'hui sans diplôme d'aller loin. Donc j'ai fait un cursus scolaire qui peut paraître assez atypique. Donc j'ai fait un bac très simple, sciences économiques sociales. Donc j'ai fait un candidat libre. Donc c'était pas facile pour moi, que j'ai eu au deuxième coup. Et après, j'ai fait l'électrotechnique, technique système automatisé. Et en fin de compte, et toujours à regarder à côté, toujours passionné par le code et par les machines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je m'étais dit il y a quelques temps que c'est normal que je suis arrivé dans ce métier, c'est que j'aime beaucoup les machines. J'aime les rétro-machines. Mon premier ordinateur est un Commodore 64 qui est branché dans ma petite salle là-bas d'ailleurs, pour que ma fille puisse s'amuser de temps en temps. C'est là-dessus où j'ai fait mes premières armes. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille. Donc mes études, je les ai arrêtées au profit de tout de suite me jeter dans l'expérience. Et je dirais que le tournant de ma jeunesse, ça a été un voyage aux États-Unis, et là où j'ai vu que c'est vraiment les compétences qui jouent, et toujours dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. J'ai fait un peu de tout dans ma vie, hein. Donc j'ai toujours pas de validation en termes de développeur ou d'ingénierie, j'ai toujours pas ça, mais j'aime toujours ça. Je suis passé par de la vente dans le domaine de l'informatique, par de la formation. J'étais conception, la formation chez Microsoft à une époque. J'étais ce qu'on appelait un Windows guru. Et après, je travaillais chez Apple pendant 8 ans. Mais lorsque j'étais, comme j'expliquais, lorsque j'étais chez Apple, j'avais commencé à faire de la blockchain, j'avais commencé un peu à toucher au développement, tout ça. J'ai tout de même fait une formation certifiante en tant que développeur iOS. À la base, je voulais faire des applications pour iPhone. J'en ai fait quelques-unes. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'ai du mal en tant que designer. J'avoue que le design, je suis pas très bon. Et juste après, donc j'ai fait une VAE, en fin de compte, dans le domaine en fait du cloud computing, en fait de ingénieur cloud, c'est ce que est marqué. Et je dirais que je me suis beaucoup certifié. C'est pour ça que je disais au début, je citais ma mère, elle me dit toujours, t'es responsable de ton développement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'aller à l'école, faut apprendre, faut y aller à fond, tout ça. Mais à côté de ça, au niveau de mon cursus scolaire, j'ai toujours, je dirais, il faut pas être super intelligent, mais il faut être passionné, il faut rien lâcher. Et la passion était là, mais je savais que fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Donc j'ai pas hésité à me certifier. Donc certification en iOS, je me suis certifié dans tout ce qui est domaine Apple. Donc là, mes certifications sont finies, mais je connais très bien l'écosystème Apple parce que j'y ai travaillé pendant très longtemps. Et juste après, ben je me suis lancé dans des certifs que proposent en fait compte aujourd'hui nos providers. Donc là récemment, il y a juste AWS, c'est relativement, je dirais pas simple, mais je dirais un peu très demandé. Azure, j'ai une certification Azure DevOps. Et en fait compte, lorsqu'on commence à engranger en fait compte ce genre d'informations, ben c'est là où on se maintient. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans ce métier, il faut tout de même des bases informatiques très assez fortes. Il faut bien s'y connaître en système, que ce soit Windows, Linux et Mac. Et Mac, pardon. Mais Linux quand même, Unix, mais surtout Linux est très important, je trouve, pour du DevOps. Il faut connaître ces systèmes, c'est là-dessus qu'on fait les images, c'est là-dessus que c'est déployé, c'est aujourd'hui dans l'industrie que c'est utilisé. Et donc après, ben, il faut peut-être aller dans un cursus scolaire qui est très axé développement. Je pense, moi, qu'aujourd'hui, on est dans un très beau pays où il y a énormément d'établissements de formation où on peut y aller. Il faut vraiment pas y aller, quoi. Mais il faut bien les choisir. Hein, il faut, faut avoir la tête bien sur les épaules et se dire, bon, je vais, parce qu'on va y mettre de l'argent, donc faut y aller. Et après, ben, une fois qu'on a un diplôme, moi, j'ai l'équivalent d'un bac plus 3. Hein. C'est pas un hyper diplômant ce que j'ai, mais par contre j'ai un panel de certificats, de certifications, et j'ai un panel aussi de, je dirais, d'expérience. C'est-à-dire que dans mon précédent employeur et avant, ben, je travaillais beaucoup dans la cybersécurité. J'ai déployé des SOC, j'ai mis en place des SIEM, j'ai même précodé un SIEM, j'ai travaillé sur des technologies Kafka, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça m'a permis, ben, en fait, de, je dirais, lors d'entretiens ou lors de recherche, bah, d'être légitime, en fin de compte, à cela. Mais ça passe forcément par se documenter. Et au bout d'un moment, c'est bien de se documenter, mais il faut passer le pas de la certification. Moi, j'encourage vraiment les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'on touche à une techno, d'aller se certifier quand vous avez le temps. Et en prenant votre temps, slow down to go fast. Hein, ça ne veut pas dire que... Ça, c'est un truc que j'aimerais dire... C'est pas en ponçant une documentation pendant 3 mois et en se disant, tiens, je passe ma certif sous la jambe, qu'une fois qu'on l'a passé, c'est en expert, j'ai plus besoin. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses, maîtriser vraiment la techno jusqu'au bout. Et moi, je parlais de mon exemple propre. Cet été, j'ai essayé ma certification Volt. Volt Associate. Et je l'ai raté de quelques pourcents. Donc, ça m'avait un peu surpris. Et en fait, ils vous font un récap. Ils vous font un récap et ils vous disent, où est-ce que vous avez pêché? Et moi, en fait, ça m'a surpris, mais j'ai pêché en fin de compte sur l'architecture. Et je me suis dit, ben, faut que je... Donc, je me suis dit, je vais reponcer la doc, je vais retravailler, je vais le refaire sérieusement, et je me dirai, l'année prochaine, je retenterai. Faut prendre son temps. Rien ne sert de se précipiter. Donc, je pense que, au niveau bagage scolaire, il faut trouver un bagage scolaire, assez large. On peut venir des économies sociales, ou moi, je connais quelqu'un qui est dans le littéraire, qui le fait, etc. Il n'y a pas de règles. Mais quand même, il faut aller après dans un cursus technique assez rapidement et de développement, toucher en fait un peu à des langages et même se trouver un langage. Moi personnellement, j'aime beaucoup Go et je suis en train d'aller vers le Rust par exemple. Mais je conseille vraiment, on se lance dans le DevOps, ou on se lance dans l'ingénierie système, ou on se lance dans plein de trucs, ou dans le cloud. Il faut tout de même aller dans une école ou une sorte de cursus scolaire où on vous apprend en fait ces méthodes. Et après, se certifier. C'est super important. Et se certifier directement avec le provider. Hein, ça mange pas de pain. Pas besoin de passer par un tiers, tout ça, etc. Les tiers peuvent vous aider à monter. Moi, j'avais utilisé Treehouse, un truc américain. C'est un tiers qui m'avait aidé à monter sur JavaScript, par exemple. Et ça donne un mindset. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle. S'il y a de l'envie de résoudre les problèmes, il faut forcément un peu de passion dans notre métier, quand même, parce que c'est ça. Mais en tout cas, des hautes études d'ingénierie, ça va vous aider. Ça, c'est un micro regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait de grandes écoles à ce sujet-là, là d'où je viens. Parce que je le vois aujourd'hui dans mon équipe chez Kodok, ils viennent tous de l'UTC de Compiègne. Ils ont moins de 30 ans, parce que je suis le plus âgé de l'entreprise. J'en pense à un là dans ma tête, il s'appelle Andrea, c'est ils sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des excellents profs qui leur ont donné des bons outils, et après, en fin de compte, ils ont plus qu'à les appliquer sur ce que je disais, sur la documentation et sur les certifications. Et donc, ça, c'est des personnes qui sont déjà prêtes dans les prochaines années sur les technologies de demain. Et ça me convainc encore plus que oui, si vous avez la capacité de faire des grandes études, faites-le. Parce qu'après, une fois que vous plongez, en fin de compte, dans le domaine des nouvelles technologies et puis dans le digital, ça mange pas de pain. Et à côté de ça, il y a d'autres profils au sein de Codoc, notamment développeuse front, qui, pareil, qui a un peu le même cursus que moi, qui au début faisait des études de vétérinaire. Et aujourd'hui, c'est la lead front. Et elle a fait elle a fait 2 ans d'études. Vous voyez, c'est une question de motivation, mais c'est une question aussi de se certifier au bout d'un moment. Donc, rien ne vous empêche de pivoter. Vous voyez, moi, je suis passé de vendeur informatique dans l'électrotechnique. Moi, je voulais réparer des ascenseurs, etc. Et pivoter, je me retrouve dans... Donc, je pense que on est dans une époque aujourd'hui où on peut le faire si on prend vraiment son temps déjà et qu'on est acteur de son développement, qu'on n'attend pas les choses faire. En fait, faut pas attendre les choses se faire parce que ça va vite dans notre domaine. Et si on attend que ça passe, on se démotive et finalement, on n'avance pas.
Ouais, je suis assez d'accord. Sauf pour la partie certification, mais je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai un BTS, hein. Donc, mais sauf que j'ai un BTS qui date de 22 ans. Donc, bon, voilà. Le truc, en fait, c'est que moi, je suis pas très certif parce que je trouve que la certif a une durée de vie limitée et autres. Par contre, ce que tu as expliqué avec les certifications, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour arriver à la certification. Et le chemin, c'est le chemin de l'apprentissage. Et je trouve que lui est plus important que la certification, parce qu'en effet, tu apprends quelque chose et tu as un objectif. Alors, la certif, du coup, ça, c'est comme l'objectif d'avoir un diplôme. Et c'est bien. Moi, j'ai pris une autre voie. J'ai pris la voie de la création de contenu et de montrer ce que je savais faire. C'est une autre voie qui est différente. Mmh. Plutôt que d'avoir des certifs et de passer mon temps à faire des certifs, j'apprends des trucs et j'essaye de les transmettre. Alors c'est vrai que je transmets un peu moins de trucs techniques parce que je suis un peu plus sur la culture et tout, parce que je trouve que c'est ce qui manque aussi dans l'écosystème de contenu, mais à titre personnel, j'apprends des trucs et j'essaye de les transmettre, ou alors je crée des logiciels libres. Mais le chemin d'apprentissage est toujours le même, que tu passes une certif ou que tu essayes de l'apprendre à quelqu'un, et c'est ce chemin-là qui, selon moi, est le plus important. Oui. Et c'est vrai que il faut continuer, on en parlait tout à l'heure de la veille, il faut continuer tout au long de notre carrière parce que ça évolue extrêmement vite. Hein. Moi, je sais que quand j'ai commencé à devenir freelance, c'était balbutiement de Docker. On voit aujourd'hui où est Docker. Il y a Kubernetes qui est passé par là. Docker a été abandonné par Kubernetes, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Donc, on voit que ça passe vite. Et pourtant, ça fait que, je sais pas moi, attends, je regarde, ça fait que 7 ans que j'ai commencé, enfin 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc ça va très très vite.
Ça va très vite. C'est ce que je disais au début, faut se considérer en mode bêta. C'est si vous lancez dans ce métier, s'il y a des jeunes et des moins jeunes qui m'écoutent, il faut avoir une soif de connaissance, mais surtout faut pas rester tout pour acquis, c'est impossible. Et des fois on se mord les doigts hein, quand on pense ouais, c'est bon, je maîtrise ça, je vais pas aller plus loin. C'est dommage. On stagne un peu. Surtout que c'est passionnant dans l'environnement où on travaille. Il y a des technos aujourd'hui qu'on découvre et qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Donc, faut pas hésiter à, t'as raison, cheminement qui amène à la certification n'est pas obligatoire. Tu as raison. Moi, je trouve que c'est important dans mon cas, parce que j'ai pas de grand diplôme, hein. Toi, j'ai un peu la même chose, tu vois, un BTS électrotechnique. Donc, c'est pas quelque chose qui m'apporte une mention. La VE m'a beaucoup aidé. Mais, les certifications apportent, en fait, un gage aux employeurs. J'avais hésité à me mettre en freelance, mais je me sens pas prêt. Hein. Être freelance quand même, c'est beaucoup de gestion. J'en suis sûr. Je le vois avec des amis qui le sont. Mais oui, cheminement, c'est d'apprendre. Et la certification n'est pas obligatoire, mais elle peut être un plus quand même pour des employeurs qui le demandent. Notamment récemment, j'ai eu une offre d'emploi de Total. Ça me demandait des certifications à droite à gauche. Il y avait un peu des recruteurs qui demandent parce qu'ils veulent vérifier si vraiment on maîtrise la techno. Ça, c'est un sujet que j'avais parlé au début. C'était que notre métier, il est dans la hype. Et ça, et tout le monde veut un peu revendiquer que veut faire ce métier parce que ça peut être relativement bien payé ou mal payé des fois. Hein, et ça, on peut le payer très cher. Dans le domaine de la blockchain, c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont blockchain ingénieurs et ils sont payés une misère. Et les véritables blockchain ingénieurs ont du mal à trouver du boulot. Donc, et je pense que beaucoup d'employeurs ne veulent aujourd'hui, comme ils savent que c'est un investissement quand même, hein, avoir quelqu'un qui amène la culture de l'ops dans une entreprise, c'est un investissement. Et avoir un retour sur investissement, il faut s'assurer que la personne les maîtrise. Et je pense que c'est pour ça que des fois, c'est demandé.
Exactement, exactement. C'est pour ça que c'est demandé. Moi, c'est vrai que je suis pas dans cette optique de trouver un futur employeur. Je suis mon propre employeur, donc je cherche à trouver des clients. C'est pour ça que je montre ce que je sais faire. Mais finalement, c'est pareil. Et à un moment, tu montres quelque chose.
Oui, je suis d'accord.
J'aimerais faire ça, d'ailleurs. Il faut, c'est bien de montrer et de partir. D'ailleurs, tu parlais de freelance juste, je sais pas si tu sais, mais j'ai une deuxième chaîne YouTube où je parle d'entrepreneuriat et de freelancing.
Ah, je regarderai, je savais pas.
Donc, voilà, tu peux chercher, elle est dans les liens de celle-ci. Tu m'as parlé de ton amour de la supervision et ça tombe bien parce que c'est souvent un sujet qu'on oublie ou qu'on fait à la fin d'un projet, ce qui est vraiment très dommage. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'aimes autant la supervision et le monitoring?
Je pense que ça vient de mon côté gamer. Alors, pas gamer, jeu vidéo, ça vient de mon côté joueur de jeu de cartes. Je joue au jeu de cartes depuis que ma mère m'a acheté une boîte d'un display d'un jeu de cartes. Et qu'elle m'a mis dans les mains, et qu'elle m'a dit, tu vas voir, ça va t'aimer, tu vas aimer. J'ai jamais lâché. Et ça vient aussi de mon côté de résoudre des énigmes. Ça, c'est le côté joueur de Donjons et Dragons. Donc, je suis rôliste et joueur de cartes. Hein. Ça, c'est, au moins, ça, c'est dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui le sont. Ça, j'ai remarqué, hein. Quand tu sors un deck de Magic, t'as des gens qui te regardent et tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis dans l'informatique. Ah, moi, je fais ça. C'est vrai, c'est véridique. La plupart de mes amis qui ont joué aux cartes, ils sont tous dans le digital, dans l'informatique ou dans les arts. Peintre ou t'es dans le théâtre, des choses comme ça. Et donc, pourquoi j'aime bien superviser lors du cycle de vie d'une application? Ça vient un peu de ce côté-là où j'ai envie d'optimiser. Et j'ai envie que ça se passe bien. C'est-à-dire, je veux que ça se passe bien, et on veut que ça se passe bien, et surtout, il y a quelque chose, il y a un produit ou il y a un service à délivrer en fin de compte à un client ou à un partenaire, et il faut que ça fonctionne. Mais il faut que ça fonctionne pendant un moment. Parce que si on délivre et qu'au bout d'une semaine, il a déjà des bugs qui arrivent là, et là, on s'amuse à faire des fixes alors que c'est en prod. Ça, c'est une première chose, faire des fixes en prod, c'est tout à fait possible. C'est mieux de les faire un peu avant. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est surtout tout simplement pointer du doigt quelque chose qui n'est pas dans une best practice. Ça permet aussi de monter en compétence les collaborateurs qui travaillent. Je vais prendre l'exemple que j'ai eu une fois, ça s'est pas produit chez Codoc, mais chez mon précédent employeur, c'était par exemple des clés, la clé carrément pour du rôle IAM pour AWS qui donnait des droits de lecture et écriture sur le cluster Kubernetes. Elle était en clair. Pas de variable d'environnement. Bon, heureusement que j'ai pointé que j'ai vu. J'ai fait, ah, t'as oublié ça. Ah, mais et voilà. Et le collaborateur, c'est pas qu'il ne savait pas le faire. C'est un oubli. Donc, en fait, c'est ce que j'aime, c'est tout au long de dire, j'aurais pas besoin de me répéter pour les prochaines fois, grâce à qu'est-ce que vous pensez de ça, je trouve qu'on devrait mettre une authentification ici. Je trouve pas ça normal que l'application, par exemple là, elle prend quasiment 90% du CPU. Et puis on commence à faire des recherches et on se rend compte que c'est le IO, c'est-à-dire la lecture et écriture sur le CPU. Donc c'est ces petits détails-là. Et ça permet en fin de compte, comme on dit dans le jargon du jeu de cartes, de tweaker son deck. Et ben là non, on va tweaker son application. C'est qu'on va, l'améliorer, on va faire. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est se dire au bout d'un moment, on a quelque chose de stable, et c'est le but de notre métier. Notre but, c'est quelque chose de stable, de disponible et de scalable. Donc après, ça veut dire faut honorer en fin de compte cette promesse, et ça que j'aime bien. Et donc, il y a l'après, c'est-à-dire qu'on déploie, maintenant on va observer, et il y a toujours ce côté-là, on va garder un œil dessus, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les utilisateurs vont aller sur nos services. Et là, on va voir comment réagit vraiment, en fin de compte, notre bébé, en fait. Et là, et c'est ça qui est assez agréable. Et là, on se dit, ah, là, il y a un truc et on va être proactif. Et être proactif, il n'y a rien de mieux. Toujours pour, déjà, pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise ou le partenaire à qui on a délivré le service. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va se rendre compte que ça marche pas. C'est nous qui allons lui dire, écoutez, nous avons remarqué une consommation ici du CPU sur notre service. C'est ce qui fait que des fois, vous avez dû observer des ralentissements. Ah oui, en effet. Très bien, nous allons faire un hotfix ce week-end. Je peux vous garantir, lorsqu'un partenaire il entend ça, il fait « Attends, c'est vous qui venez vers nous quand il y a des problèmes, ce n'est pas nous. » Il y a une perception différente. Et en fait, il y a cette satisfaction client, on peut le dire, qui est là. Mais aussi de nous-mêmes, de se dire « On a trouvé quelque chose, donc on est tous là à se frotter les mains. Ah ouais, il y a un problème, on va le résoudre. » Moi, j'adore résoudre des problèmes, donc ça, c'est une première chose. Et une fois que plus on en résout, et plus, en fait, compte, on a une raison de bosser. Et en fait, c'est tous les outils qu'on met en place, c'est-à-dire toutes les lignes de commande qu'on connaît, tout ça, c'est-à-dire ce qu'on a appris, et ben on le fait. Et puis au bout d'un moment, on n'arrive plus à le trouver. Et donc là, je te parle par exemple de ce problème qu'on a eu vraiment sur la consommation de CPU de View qui utilisait trop le IO weight du CPU. C'est que j'ai découvert des commandes pour vérifier tout ça. Donc c'est là où j'ai découvert le IO stat, le IO top, des choses comme ça, et que je pouvais faire des scripts à côté pour vérifier quand ça marchait pas. Et j'ai fait des scripts de monitoring qui m'envoyaient des alertes au cas où si ça dépassait un seuil et qu'est-ce qui provoquait ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une mise à jour très précise à faire sur le kernel de la machine à GCP qui n'était pas possible à cause d'un agent qui était installé par GCP. C'est-à-dire qu'ils ont un observateur qui était installé, on peut même cliquer pour dire d'installer pour le monitoring, et on l'a désinstallé, ce qui a permis en fin de compte de gagner un peu en IO. Et après, on a découvert qu'il fallait qu'on augmente des choses, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire en débuguant et en faisant de la recherche sur un problème, on monte en compétence. C'est inévitable. Et c'est pareil dans le domaine de la sécurité. C'est là où on arrive aussi dans l'étape d'après. C'est tout ce qui est threat hunting, c'est tout ce qui est recherche de failles. Et donc, un outil automatique qui vous donne les failles, c'est très bien. Super. Mais après, au bout d'un moment, il va falloir chercher vraiment. Donc, c'est vraiment chercher c'est quoi la faille et comment on rend tout compatible pour qu'on minimise les dangers sur le service qu'on propose, quoi. Et donc, c'est ça que j'aime bien. C'est stimulant de se dire, là, il y a un problème, je vais le résoudre. Pas plus tard que ce matin, c'était des histoires sur la pré-prod et la prod. Il y avait un souci de version sur l'API. On a trouvé qu'en fait, c'était tout simplement un bug d'affichage sur le tag, mais que c'était la bonne API. Et on s'est rendu compte de ça en une heure, mais au moins, ça n'a pas pris une journée pour le faire parce qu'en amont, on avait mis les outils qui le permettaient. Donc, c'est ça qui est assez agréable que je dis bien le mot agréable, c'est que pendant le cycle de création, la genèse, depuis la genèse, c'est-à-dire depuis la DAT, le document d'architecture technique, jusqu'à le delivery, s'il y a la culture DevOps qui est du début à la fin, on va pouvoir intervenir sur la sécurité, sur la supervision de la chose, sur comment on backup, sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir, sur tous les worst case scénarios qu'ils peuvent avoir, parce que c'est un peu notre boulot de se dire, et qu'est-ce qui se passe si? C'est what if, tu vois, c'est ça. Et là, en fait, quand on se rend compte que on rend sensible l'équipe à ça. Ce qui fait qu'après, au fur et à mesure, on va partir sur d'autres sujets et eux, ils sont beaucoup plus autonomes. Ou même, ils vont se dire, là, il y a un truc, là, on n'est pas sûr, on va aller voir Rama, on va en discuter. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est bien que tu en parles parce que, justement, moi, quand j'apprends le DevOps à mes élèves, je leur dis à chaque fois, c'est une culture de l'amélioration continue. Et si tu veux améliorer quelque chose, il te faut de la mesure. Il faut mesurer déjà pourquoi ça va pas bien. Et puis, il faut mesurer pour voir si ça a été amélioré. Et donc, c'est pour ça que les outils de supervision sont là et nous aident déjà pour collecter des informations, pour savoir où est le problème. Et puis, pour voir dans plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que notre solution, elle a vraiment amélioré les choses. Mmh. Et la supervision, c'est génial pour ça. C'est vraiment bien.
Oui, très important.
Bon, on arrive vers la fin de l'émission, on a déjà dépassé l'heure largement. Je vais te poser deux petites questions. La première, c'est est-ce que tu as un conseil de lecture, un article, une conférence même à voir ou un livre à lire à notre auditeur ou notre auditrice?
Oui, moi j'ai plutôt un podcast à conseiller que j'aime bien écouter. Alors le tien aussi. Si vous parlez anglais, je vous conseille d'écouter Serverless, très intéressant comme podcast. C'est un podcast sur un Américain et une Américaine qui discutent, qui invitent des gens qui sont dans le domaine, en fin de compte, du delivery ou de toutes les nouvelles technologies, que ce soit cloud, on-premise, c'est très intéressant. Il y a eu quelqu'un récemment de Spotify, c'était franchement, donc Serverless, c'est un podcast gratuit, donc ça c'est pour les anglophones. En termes de lecture, je conseillerais vraiment de lire sur Humble Mumble, il y a eu un livre que j'aime bien qui s'appelle The Black Hat Playbook. Pourquoi je vous dis de lire un livre de là-dessus sur les Black Hat Playbook avec Python? C'est parce qu'à l'intérieur de ce livre, on apprend énormément de choses. Déjà, il y a quelques codes Python à l'intérieur, mais surtout, on apprend énormément de choses sur la manière que travaille un pirate informatique. Et je dis bien un pirate informatique. Il y a une différence entre un hacker et un pirate. Ayant un passif de white hat, je peux vous garantir que quand on est des hackers. D'ailleurs, l'esprit DevOps, les ingénieurs DevOps, on est un peu des hackers. On transforme quelque chose pour faire autre chose. Donc, ça s'appelle Black Hat Books for Python Programmer. Il se trouve très facilement sur Humble Mumble. D'ailleurs, un gros panel. Je me souviens plus de l'auteur. Je t'enverrai un message pour que tu le mettes en description si tu veux. Mais dans ce bouquin, ça m'a beaucoup apporté parce que ça donne des bonnes commandes, ça donne des bons scripts, ça vous apprend à comment faire des cron jobs. Ça paraît pas, mais des petites bases de faire un petit cron des fois pour avoir des retours, c'est très intéressant. Donc, je conseillerais ce petit bouquin. Voilà.
Merci. Ouais, j'essaye de toujours mettre des liens en description. Je sais pas si tu as remarqué dans les podcasts, oui. Il y a toujours plein de liens. Et où est-ce qu'on te retrouve à part, évidemment, sur le forum des compagnons, mais où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as envie d'être contacté par les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent?
Vous pouvez me contacter via LinkedIn si vous le souhaitez pour discuter, pour échanger, pas pour me recruter. Hein, je suis très bien où je suis aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je dis. Ou alors, si vous voulez taper le carton, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Synesios Aventure TV. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis des choses dessus. Parce que je suis un gamer de jeux de cartes, comme je le disais, et vous pouvez me contacter via directement ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, ou via LinkedIn, ou via le forum des compagnons, hein, y a pas de problème, je répondrai à votre message.
Eh ben, merci à toi pour tout ça. Je mettrai les liens de ton LinkedIn et ta chaîne YouTube aussi que je suivais, mais malheureusement, comme tu le dis, y a plus rien. mais je suis encore abonné, je crois.
Je crois qu'il y a 6 mois, j'ai mis une vidéo sur Dune, le vieux jeu de cartes. Mais le boulot, plus déménagement, j'ai quitté Paris pour venir habiter là à la campagne, plus déménagement, plus d'enfants qui arrivent. C'est dur de trouver du temps pour faire du contenu ludique. C'est dur.
C'est vrai. Moi, j'ai du mal à faire du contenu tout court pour les chaînes YouTube. Je voulais ouvrir aussi une chaîne de jeux, mais du coup, j'ai abandonné l'idée parce que sinon, je ne dormais plus.
Voilà. Mais c'est un projet Exactement. Que j'ai dans le pipe de créer effectivement du contenu. Je sais pas comment je vais le faire, mais du contenu où je montrerai un peu plus les bases, une sorte de vlog de comment je vivais. Mais je vais attendre je vais attendre 2023 pour ça, le temps que ça se tasse pour moi. Mais c'est un truc que je voudrais faire. Ce que tu fais, c'est intéressant et je pense que t'as raison. Et je vois beaucoup de gens sur YouTube qui vous proposent beaucoup de contenu, mais trop hard, je trouve, trop technique. Et ils oublient un peu cet aspect philosophique, même limique, ou d'idées que peut avoir notre métier. Des fois, c'est important.
Ouais, exact. Je trouve qu'on est un peu trop enfermé dans la tech et ça nous, on prend pas le pas de côté pour regarder un peu ce qu'on fait. C'est peut-être l'âge, hein, tu me diras. Et puis c'est peut-être aussi le fait que moi je suis pas ingénieur et que je m'intéresse à énormément de choses, la politique, l'économie, la monnaie, le jeu, mm-hmm. et ça foisonne dans ma tête. Et du coup je suis pas à fond dans la tech. Et je trouve que quand t'es à fond dans la tech, tu mets pas de réflexion citoyenne dans ce que tu fais. Et tu te dis que ce que tu fais c'est forcément bien. Alors qu'en fait, tu te poses pas les questions sur l'usage que va avoir ce que tu crées.
Exactement. C'est pour ça que je travaille chez Codoc, d'ailleurs. C'est, comme je te disais avant, il y a eu Total, j'ai eu d'autres groupes, et j'ai choisi vraiment cette start-up parce que c'est quelque chose qui m'avait touché sur certains détails personnels. L'errance de diagnostic, c'est quelque chose qui peut arriver à des gens. Et je veux dire que si je participe à ça, ça a du sens. C'est important. Donc, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est important d'avoir du sens. C'est aussi pour ça que moi j'ai créé Frogit, parce que ça a du sens pour moi de faire ça, même s'il y a des concurrents américains qui existent. Mais l'idée derrière, c'est proposer autre chose. Eh ben, merci à toi.
Merci à toi.
Hein. Et puis à très bientôt en tout cas sur le forum.
À très bientôt sur le forum. Merci beaucoup. Bye bye.
My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme
j'aime leur façon de faire, j'aurais dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr/jobboard-devops, mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, si t'es manager, DSI ou directeur d'entreprise, et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board. C'est sur vue.fr/jobboard-devops-recrute. Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.